Bonjour, bonjour. Je vous encourage vraiment, pas parce que c'est moi, mais à réécouter les messages de vendredi et de samedi. Parce que je crois vraiment que cette église, elle est dans un temps charnière, comme disait mon frère ce matin. Et c'est très important d'être là quand il y a des temps charnières. Nous avons connu un grand temps charnière dans notre église dans les années 90. Et une prophétie avait été donnée à l'église à cette époque-là, qui disait, faites très attention, ralentissez, l'église va prendre un tournant. Et si vous ne prenez pas le tournant, vous allez vous retrouver dans le décor. Et la solution, c'est de faire très attention au pilote, au GPS, qui est le Saint-Esprit. De coller au Saint-Esprit dans ce tournant. Parce que figurez-vous que dans la vie, parfois, les choses ne vont pas toujours tout droit. Et qu'il y a des fois, il y a des tournants à prendre. La religion, elle va toujours tout droit, même pire que ça. La religion, elle tourne toujours en rond, en fait. On tourne en rond sur les mêmes choses. Mais Dieu est un Dieu qui nous donne un parcours parfois compliqué à faire. Il pensait à Israël dans le désert qui devait suivre les instructions de Dieu et camper parfois 6 mois, parfois 1 an, parfois 3 jours, parfois 1 jour. Et il devait suivre le Seigneur. Et malheureusement, dans notre église, dans les années 90, il y a un bon tiers de l'église qui n'a pas écouté cette parole. Et ils n'ont pas quitté l'église, vous savez. Ils ont juste plus rien compris à ce qui s'y passait. Plus rien. Ils ont même parfois été choqués par les choses qui s'y passaient. Parce qu'ils perdaient leurs repères et ils ne trouvaient plus leurs habitudes. Et ça les déstabilisait. Et ils sont restés chrétiens, vous savez. Ils n'ont pas perdu la vie éternelle. Mais comme on dit vulgairement, ils sont des chrétiens dans le gaz, savent pas ce qui se passe, comprennent pas le plan de Dieu pour leur vie, comprennent pas ce qui se passe dans l'église, pourquoi tant de remue-ménage pour si peu. Ils sont complètement à la masse, comme on dit. Et ils sont restés là, et je suis persuadé qu'ils appartiennent toujours au Seigneur et que le Seigneur les aime. Mais ils ont loupé le coche. Ils ont loupé quelque chose. Et maintenant, on se situe 20 ans plus tard. Vous savez quoi? Ils sont toujours dans le décor. Parce qu'ils ont perdu le chemin. Quelques-uns, on a réussi à aller les rechercher et leur expliquer comment retrouver le chemin dans la vie pour repartir de plus belle et avancer avec le Seigneur. Mais la majorité de ce tiers de notre Église, jusqu'à ce jour, sont dans le décor. Ils viennent, ils comprennent pas, ils rentrent chez eux, ils comprennent pas leur propre vie. Ils n'avancent plus, ils ne portent pas de fruits. La vie chrétienne se résume à chanter des cantiques, à lire quelques versets bibliques. Et puis, attendre la fin. C'est comme des chenilles qui n'ont pas accepté la transition de rentrer dans un cocon pour devenir des papillons. Quand j'étais petit, j'élevais des vers à soie. Je ne sais pas si vous avez fait ça à l'école primaire, parfois en cours de biologie ou des choses pareilles, on fait ça. Nous, on nous avait appris à élever des vers à soie. Les vers à soie, ce sont des chenilles en fait. Hein. Ce n'est pas vraiment des vers, c'est des chenilles. Et on les met dans une boîte à chaussures, on fait des trous pour qu'elles respirent, parce qu'elles aiment bien les ténèbres. Et on leur met quelques feuilles, et alors elles mangent les feuilles, et pendant un long moment, elles mangent les feuilles et elles grossissent. Et puis un jour, on se lève un matin, et puis il y a une chenille qui a l'air bizarre, elle est toute emballée dans un cocon. Et les enfants, on est très curieux, on a envie de l'ouvrir, et quelquefois on l'a fait, on a tué la chenille, quand on a ouvert le cocon pour voir ce qui s'y passait. Vous savez, il y a des temps où il y a que vous et le Seigneur, ensemble, qui peuvent y arriver. Et parfois, l'aide d'un tiers, ça fait pire que mieux. Mais j'ai remarqué qu'on avait certaines de nos chenilles qui mangeaient, grossissaient. Et pour une raison que je ne sais pas, je suppose que dans le cas de la chenille, c'est pas volontaire, mais elle loupait le coche. Elle n'entrait jamais dans cette étape de la chrysalide. Et elle grossissait, et puis elle séchait et elle mourait comme une grosse chenille. Et elle n'avait jamais passé le cap, et elle ne devenait jamais des papillons. Maintenant, les vers à soie, ce sont pas des beaux papillons, hein. Ce sont pas des papillons multicolores, c'est comme des papillons de nuit, quoi. Gras, avec un gros derrière et des petites ailes blanches, hein. Avec des antennes, avec des petits poils. Elles sont pas belles du tout, ces chenilles-là, ni les papillons. Mais il y a quelque chose d'important. C'est qu'aussitôt qu'elles deviennent des papillons, elles commencent à pondre. Et elles pondent, s'il vous plaît, partout. toute la boîte à chaussures, toutes les surfaces dedans, toutes les feuilles sont recouvertes de petits œufs, à tel point que les vieilles chenilles qui n'ont pas accepté la transition n'ont même plus rien à manger et elles meurent. J'ai vécu ça plusieurs fois dans mon enfance avec ces chenilles-là. Parce que quand il y a une étape de l'Église, il faut la franchir ensemble. Jésus n'est pas un guide précipité. Vous savez, il disait à Israël, combien de fois j'ai voulu être comme cette poule qui couvre ses poussins. Vous savez comment les poules elles font? Elles attendent les poussins. Elles ne se précipitent pas en disant, ben crève, t'es... Vous savez, comme les canards, on va les chercher. On va les chercher, on essaye de les couvrir, on essaye de les amener. Les poules font ça aussi. Mais si tu veux pas venir, à un moment donné, il faut que ça avance. À un moment donné, tu restes dans le décor. À un moment donné, tu te fossilises et tu meurs. Alors, je ne dis pas que tu te perds et que tu n'as plus la vie éternelle. Mais il y a des personnes quand même, au bout de leur vie chrétienne, qui auront été sauvées, mais qui n'auront rien fait de tout ce que Dieu avait préparé pour elles. Et qui seront restées là à se poser des questions et à ne pas comprendre. C'est un temps de métamorphose pour cette Église ici. Si vous n'étiez pas là hier et avant-hier, je vais juste résumer en quatre petites phrases ce que nous avons dit, puisque c'est une Église qui aime la poésie. Dieu fait de moi ton papillon, pour que je m'envole vers ton horizon. Dans ta présence, Dieu, je viens boire. Elle me transforme de gloire en gloire. C'est ça que je vous ai dit depuis 2 jours. Donc, c'était pas la peine de venir. Vous avez un résumé dimanche matin. Dieu fait de moi ton papillon pour que je m'envole vers ton horizon. Il y a des possibilités à perte de vue avec le Seigneur. Dieu est un Dieu d'expansion, un Dieu de croissance, un Dieu qui nous pousse en dehors de nos zones de confort, en dehors de nos retranchements. Le commandement que Dieu a donné à l'homme à l'origine, c'est « multiplie-toi, remplis la terre, disperse-toi sur toute la surface de la terre ». Avez-vous vu ce que les premiers hommes ont fait rapidement? Ils se sont dit « construisons-nous une ville pour ne pas être dispersés sur la terre ». Hein, vous connaissez l'histoire de Babel. Dieu dit, dispersez-vous. Allez à la conquête de ce monde fabuleux que je vous ai donné. Mais les hommes, ils disent, non, on va rester, on va camper, on va se sécuriser dans cette ville. On va se faire un grand nom ici. On va remplacer Dieu parce qu'on va se construire une tour qui touche le ciel. Et on ne va pas se disperser. Dieu est un Dieu qui dit, va. Et c'est drôle que quand Jésus a terminé son ministère, la dernière chose qu'il nous a dite, c'est, allez, il n'a pas dit « venez », il n'a pas dit « restez coincés ici », il a dit « allez dans toutes les nations faire des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, le renseignant à garder tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Jésus est avec nous si nous faisons ce qu'il nous commande de faire. Il y a des chrétiens parfois, ils sont restés là où Jésus était hier et ils n'ont pas voulu aller là où Jésus est en train d'aller maintenant. Et ils se retrouvent dans la sécheresse. Ils se retrouvent dans un état où ils ne comprennent plus ce qui se passe dans leur vie. C'est comme si Israël, dans le désert, avait oublié de se déplacer avec la nuée. J'ai été dans ce désert en vacances une fois. Ça, c'est très chaud. 50 degrés à l'ombre. Pas une plante, pas un lézard, pas une mouche. Pas une fleur, c'est juste des cailloux et du sable. Quelle horreur de passer 40 ans dans ce désert. Pourtant, leurs chaussures ne s'est pas usées, leur corps n'est pas tombé malade. Ils avaient tout ce qu'ils voulaient, ils avaient de la viande, ils avaient à manger, ils avaient du pain qui tombait du ciel le matin, parce qu'ils vivaient sous la nuée de la présence de Dieu. Et ils apprenaient à dépendre de Dieu. Et quand Dieu se déplaçait, il se déplaçait. Quand Dieu restait, il restait. Alors imaginez, c'est l'Israélite qui dort un peu plus longtemps. Je ne sais pas si vous êtes un peu comme moi. Moi, j'aime bien dormir un peu plus longtemps. Je suis un couche-tard et un lève-tard à cause de ça. Il se réveille un matin et il dit, mince, ils sont tous partis. Et puis, il voit le nuage à l'horizon. Et il commence à courir. mais il est plus sous la protection de ce nuage. Vous savez, ils étaient protégés par une nuée que Dieu faisait dont Dieu surmontait le peuple pour éviter que le soleil les brûle. Ça doit être horrible de vivre dans un désert comme ça sans ombrage. Il y avait une ombre qui les couvrait. Et vous savez, dès qu'on est en dehors de la nuée de la présence de Dieu, on le sait, il y a quelque chose qui ne va pas dans notre vie. Quand je suis né dans une famille chrétienne, enfin, à moitié chrétienne, ma mère était vraiment chrétienne, et j'ai entendu parler de l'évangile depuis que je suis tout petit. J'ai été béni depuis mon enfance. Les premières choses, les premières images, les premiers livres que j'ai lus étaient des histoires de Jonas, des histoires d'Élie. Je me rappelle encore de ces images, elles sont encore dans mon esprit. Et j'ai grandi comme ça béni. Tout ce que je faisais réussissait. J'étais béni par Dieu. Je foutais rien à l'école et je réussissais. Et puis quand j'ai eu 19 ans, la nuée n'était plus au-dessus de ma tête. Parce que Dieu ne voulait plus que je suive le Dieu de ma mère, mais il voulait devenir mon Dieu, il m'appelait à le suivre. Et la nuée s'est soudain déplacée, et du jour au lendemain, j'ai commencé à éprouver des angoisses, j'ai commencé à ressentir que l'enfer était sous mes pas. C'est vraiment une sensation horrible de ressentir ça, comme si tu vas être englouti vivant en enfer. Je ressentais ça à 19 ans. J'ai commencé à tout échouer. J'avais été pendant tout mon secondaire premier de classe, presque premier de classe, mon frère il me battait toujours. Et tout à coup, je commençais à échouer. J'échouais des cours que je maîtrisais. Et puis tout d'un coup, j'ai échoué 3 fois mon permis de conduire. Pour un garçon, c'est une honte. Encore que je ne veux pas être sexiste. Généralement, les filles conduisent mieux que les garçons. Si vous regardez les statistiques des accidents. Parce que nous, on est très agressifs au volant, hein, les hommes. Mais j'ai commencé à échouer 3 fois mon permis de conduire et ça, je ne comprenais pas parce que je maîtrisais, je conduisais très bien. Mais dès que je passais l'examen, je foirais, ça ne marchait plus. Et je me rendais compte qu'il n'y avait plus rien qui allait dans ma vie. À cette époque-là, je vous avais dit hier soir, j'étais fiancé, elle a commencé à me tromper. Elle m'a trompé 2 fois. Alors que tout allait bien depuis des années. Je ne comprends pas ce qui m'arrive. Et je me suis rendu compte qu'il y a une bénédiction qui n'est plus sur ma vie. Et c'était pas une bénédiction que j'entretenais, c'était une bénédiction que je lissais passivement à cause de mes parents à cause de ma mère qui servait le Seigneur, qui aimait le Seigneur, qui priait pour moi. Eh bien, à un moment donné, Dieu, il a arrêté de l'exaucer. Il a arrêté de me protéger. Il a arrêté de me couvrir. Et il a dit, laisse Christophe un petit peu se débrouiller en dehors de la nuée, qu'il goûte un petit peu à ce que c'est que vivre sans Dieu. Et j'ai commencé à avoir des angoisses et des angoisses. Il ne s'est pas passé 2 semaines, j'ai couru dans une église me convertir. Ah, c'est horrible de vivre sans Dieu. Mes frères, mes sœurs, suivez la nuée de l'Esprit. Le Seigneur est en train de conduire cette église. C'est une chose terrible que de se retrouver loin de la présence du Seigneur. Dans cette vie, il y a des personnes parmi nous ce matin qui sont déjà en train de goûter un avant-goût de l'enfer. Vous savez, l'enfer, c'est pas une marmite avec de la lave dedans et des démons qui vous piquent avec des fourches. Hein. L'enfer, c'est les ténèbres du dehors où Dieu n'est pas. Vivre loin de sa présence. Et de même qu'il y en a plusieurs ici, vous vivez déjà un avant-goût du paradis parce que le ciel est dans votre cœur et vous ressentez la joie d'avoir Jésus en vous. Et quand vous fermez les yeux, vous êtes grisés, enivrés par le bonheur de connaître le Seigneur. Il y a aussi parmi nous des personnes qui ont un avant-goût de l'enfer et qui ressentent la perdition, la damnation, la culpabilité, la honte, la solitude, le froid du dehors, les ténèbres. Dieu, il vous appelle hors des ténèbres. Il vous appelle hors des ténèbres dans sa sainte lumière ce matin. Je veux faire un appel d'évangélisation tout de suite là. Je ne vais pas vous faire avancer, mais Dieu, il vous appelle hors des ténèbres et dans sa sainte lumière. Venez pendant que les portes sont ouvertes, parce qu'un jour vient bientôt où les portes seront fermées et beaucoup de personnes ont voulu se convertir sur leur lit de mort et n'ont pas eu le temps. Venez dans la lumière, ne patientez pas, ne tardez pas, ne persévérez pas dans vos mauvaises voies. Venez courir dans la présence de Dieu, répondre à son appel. Il y a une lumière qui brille dans la nuit, que les papillons suivent. Cette lumière, sortez des ténèbres, entrez dans la présence de Jésus. C'est la meilleure décision que j'ai prise de ma vie. La première, c'est celle-là. La seconde, c'est d'avoir épousé la femme que j'ai épousée. La première, c'est d'avoir cédé à l'appel de Dieu, bien que, si je suis honnête, ça aurait été difficile de ne pas y céder. Parce que je souffrais tellement loin de lui que, vous savez, entre l'enfer et le paradis, le choix, il est facile. Mais c'est quand même ton choix. Et je suis parfois très surpris, à travers mes années de pastorat, que des gens s'entêtent à choisir l'enfer quand même. Ils sont dans une situation épouvantable, et on leur montre la solution, mais ils veulent rester dans leur solution épouvantable. L'homme est tellement têtu. Je suis le plus têtu de tous ceux que je connais. Mais à un moment donné, les gars, il faut céder. Il faut s'abandonner, il faut jeter nos armes aux pieds du Seigneur et dire « Je me rends, j'accepte, Seigneur, je veux venir dans ta présence. » Et peut-être que tu as cédé à Dieu sur plusieurs points de ta vie, mais il reste des points où tu ne lui as pas cédé. Dieu, il est très têtu, vous savez. Il ne s'intéresse pas tellement au point que tu lui as déjà cédé. Il va s'occuper de celui que tu lui as encore refusé, que tu dis non, non, non. Là où tu campes encore, où tu dis non, ça je me le réserve. Parce que Dieu veut tout. Il a besoin de tout toi pour pouvoir te sauver entièrement, pour pouvoir te guérir entièrement, t'utiliser entièrement. Dieu est un Dieu jaloux, quelqu'un l'a dit ce week-end. Dieu est un Dieu jaloux. Mais pas un Dieu jaloux parce que il est possessif et caractériel. Il est jaloux parce qu'il nous aime d'un amour éternel et il ne peut pas nous laisser nous perdre. Si quelqu'un se perd, c'est parce qu'il l'aura vraiment voulu. Mais Dieu, il nous a montré par le sacrifice de son Fils qu'il est prêt à aller à des extrêmes pour nous sauver. Je vous l'ai déjà dit, je le dis pour le bénéfice de ceux qui ne me connaissent pas, mais mon corps de la tête aux pieds est couvert de cicatrices de l'amour de Dieu qui m'a frappé pour m'apprendre à lui obéir et à l'aimer. Parce que je vous assure, j'ai été têtu et j'ai essayé de m'enfuir très souvent. Mais Dieu ne veut pas que je loupe les différentes périodes de ma vie. La plupart de mes transitions dans ma vie ont été des transitions douloureuses, très brutales, très douloureuses, très angoissantes. Pas parce que Dieu le voulait ainsi, mais parce que j'ai été têtu et j'y résistais. Mais il a jeté son dévolu sur moi et il veut absolument que je passe les transitions. Je ne sais pas si c'est pour moi ou si c'est pour les gens que je suis censé bénir. Parfois je pense que c'est un peu les deux. Quand on a un appel à servir le Seigneur, il est un petit peu plus sévère avec nous. Mais je lui suis tellement reconnaissant. Et maintenant je dis, Seigneur, s'il te plaît, je veux des transitions douces. Je veux des transitions gentil, confortable, agréable. Et de temps en temps, j'en ai. Ça veut dire que je commence à être un peu moins têtu. De temps en temps, je reconnais encore mes problèmes de caractère. Vous savez, l'apôtre Paul était un homme très têtu. C'était un homme plein de courage, de force de caractère. Un justicier qui allait de lieu en lieu enfermant les chrétiens, même permettant qu'on les mette à mort, parce qu'ils pensaient faire le bien. Un homme avec un caractère trempé. Il a fallu qu'il soit brisé par Jésus sur le chemin de Damas et devienne aveugle pour apprendre à voir. Et cet apôtre Paul, il nous disait qu'il a dû apprendre à laisser derrière tout ce qu'il avait connu avant pour pouvoir entrer dans cette nouvelle saison de sa vie. C'est ce passage qui nous suit un petit peu depuis le début, que j'aimerais qu'on lise ce matin vraiment entièrement, Philippiens au chapitre 3, les versets 12 à 21. Ce magnifique passage où l'apôtre Paul se livre un petit peu et il nous explique où il en est lui-même. Philippiens 3, 12 à 21, « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est devant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Écoutez maintenant, nous tous donc, qui sommes des hommes faits, c'est-à-dire des hommes mûrs, ayons cette même pensée. Quelle même pensée ? Celle qui précède. C'est un signe de maturité, d'être capable de laisser les choses d'hier derrière et d'avancer pour saisir les choses de demain. Nous tous donc qui sommes des hommes faits, ayons cette même pensée. Et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. Vous voyez ce que je vous disais avec la poule ? Dieu veut qu'on soit ensemble. Il veut pas que quelqu'un se perde et se retrouve à l'écart. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Malheureusement, souvent, les chrétiens, ils imitent d'autres chrétiens qui marchent de manière tordue. Imitez ceux dont la vie ressemble à quelque chose. Verset 18. Car il en est plusieurs, et ça, c'est difficile ici, ce qu'il dit Paul. Il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé. C'est que c'était important pour lui. Et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais nous, j'aime bien ça. Nous sommes concitoyens des cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera, métamorphosera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toute chose. Un mot sur cette dernière phrase. L'apôtre Paul est en train de parler de la dernière étape de notre vie. Que ce soit la résurrection des morts, ou le jour où le Seigneur Jésus est en train de venir, nous serons transformés. Jusqu'au bout de notre existence, il y aura des métamorphoses. Et la mort et la résurrection, c'est la dernière métamorphose. Où nous allons, comme la chenille, nous débarrasser de la vieille peau et du cocon pour déployer nos ailes éternelles et nous envoler dans la présence de Dieu. Ne plaignez jamais ceux qui partent en Christ. Parce qu'ils sont vivants pour Dieu. C'est nous qui restons qui sommes à plaindre parce qu'ils nous manquent. Mais eux, ils ont laissé le cocon de cette chair mortelle derrière eux. Et leurs ailes spirituelles, sans aucune limite maintenant, se sont déployées vers l'horizon de l'éternité de Dieu. Et ils ont été accueillis par une présence immense dans le paradis, dans la présence du Dieu vivant. Là où on a chanté que même les anges ne peuvent pénétrer. Là où les séraphins se couvrent les yeux parce qu'ils ne peuvent pas regarder la gloire qui s'y trouve. Nous, on est appelés à y aller. Cet endroit où il est écrit que même les anges y penchent les regards parce qu'ils désirent les choses qui nous ont été données à nous. Ces personnes-là qui nous quittent sont parties là, dans la gloire de Dieu. Et nous aussi, on est appelés à y aller un jour. La vie, elle est remplie de métamorphoses. Et l'apôtre Paul, qui était un homme passablement transformé, et vraiment sanctifié, un homme transformé. Il disait, je n'ai pas encore atteint la perfection. Je suis toujours surpris d'entendre des chrétiens me dire, il n'y a plus rien à chercher. On a déjà tout ce qu'on a besoin d'avoir. Si c'était vrai, on ressemblerait à autre chose. Notre vie ressemblerait à autre chose. Et vous savez surtout, on porterait beaucoup de fruits. La différence entre une chenille et un papillon, c'est que le papillon pond des œufs, il porte du fruit. La chenille, elle ne fait que manger, 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 manger. Dans nos églises, on a besoin de chenilles qui deviennent des papillons. C'est pas que nous, les pasteurs, on n'aime pas prêcher, on n'aime pas faire des études bibliques, on aime bien. Mais on n'est pas là pour engraisser les chenilles qui ne veulent pas faire la transition. On est là pour faire de vous des papillons. On est là pour laisser le Seigneur vous aider, vous accompagner dans ce processus où le Seigneur fait de vous un papillon. Et malheureusement, souvent, il y a des personnes qui s'entêtent à rester des chenilles plus longtemps qu'elles ne doivent. On s'accroche, on ne lâche pas certaines choses, on continue, on persévère dans nos travers, nos caractères d'année en année ne changent pas. Je suis toujours stupéfait, je visite les églises, je voyage partout et je vais dans les églises tous les ans ou parfois tous les 2 ans, parfois tous les 3 ans. Et chaque fois que je vais dans une église, je vois que ceux qui évoluent, évoluent beaucoup plus vite. Et puis ceux qui n'évoluent pas, ils n'évoluent pas. Ils sont les mêmes. Et de temps en temps, je suis tellement agréablement surpris que quelqu'un que j'ai pas vu évoluer pendant 10 ans, je viens à l'église et je vois que c'est quelqu'un d'autre. Ça m'est déjà arrivé de ne même plus pouvoir le reconnaître. Ma sœur, ma petite sœur, pas Sarah que vous connaissez, ma petite sœur qui s'appelle Marie, quand elle étudiait la logopédie à Glun, il y avait un jeune Français là qui s'appelle Lionel et qui est aujourd'hui son mari, qui n'était pas chrétien, qui était dans les trucs orientaux, aïkido et tous ces trucs-là, méditation et tout ça. Il courait après ma petite sœur Marie et Marie disait non, moi je veux marier un chrétien. Et alors il a dit, je vais me convertir. Alors non. Tu ne te convertis pas pour moi. Elle n'a pas voulu de lui. Et il inlassablement poursuivait ma petite sœur. Et un jour, il était tellement insistant que même ma mère l'a accueilli à la maison pour qu'il vienne manger un bout. Et il était là avec ma sœur. Hein, et ma sœur dit, je te présente mon copain, enfin un ami de classe, quoi. J'avais tout de suite compris qu'il était amoureux d'elle. Et il se disait, il n'y a pas de père dans cette maison, donc le fils aîné, c'est sans doute lui qu'il faut séduire pour gagner la petite sœur. Alors il était très sympa avec moi, et il parlait des arts martiaux et des choses pareilles. Mais il y avait tellement de ténèbres dans son regard. Et puis, des années plus tard, je ne sais plus combien d'années, ma sœur Marie vient, elle me dit, je vais te présenter quelqu'un, je vais commencer à sortir avec lui. Et elle dit, tu l'as déjà rencontré, hein, c'est Lionel. Et alors je lui serre la main, je dis non, je ne vous ai jamais vu, je ne sais pas qui vous êtes. Mais si, tu m'as vu. Je suis venu chez ta mère il y a quelques années, on était à table, on a parlé de l'aïkido et... Mais non, mais c'est pas toi. C'est pas possible. Il avait tellement changé que même son visage était devenu méconnaissable et que je le reconnaissais plus. Et même en faisant des efforts, j'arrivais plus à me souvenir que c'était le même personnage. Il y avait une arnaque quelque part. Ce qui s'était passé, c'est qu'il est allé dans une petite église en France. Et il est rentré et le pasteur a dit « D'où venez-vous, mon cher? On vous a jamais vu ici. Êtes-vous pentecôtiste? Êtes-vous méthodiste? Êtes-vous baptiste? Êtes-vous réformé ?» Et il a dit « Non, je suis juste perdu. » Ils ont tellement l'habitude que ce sont des chrétiens qui vont d'église en église et pas les perdus qui cherchent Dieu. Et alors ils l'ont pris en main, ils l'ont aidé, ils l'ont aidé dans sa conversion, ils l'ont baptisé. Et puis il s'est dit, ça y est, maintenant je suis un chrétien, je vais retourner auprès de celle que je sais que je devais avoir depuis toujours. Et ma petite sœur, elle a dit, ah. Et jusqu'à ce jour, je me dis, elle a fait un très bon choix avec ce garçon-là. Hein, c'est le fils que ma mère aurait toujours dû avoir. Il fait tout à la maison, il est bricoleur, il rend service, il est incroyable. Moi je suis pas bricoleur du tout. Moi, je suis bon pour démolir, mais pas pour construire. C'est le fils que ma mère aurait dû avoir. Il est parfait. Et en plus, il soutient ma sœur comme personne. Mais ce que je veux dire par là, c'est que quand Dieu entre dans ta vie, il doit y avoir une métamorphose. On ne doit pas te reconnaître. Ton chat doit se rendre compte que quelque chose a changé. Il doit te regarder, les oreilles rabattues, la queue qui bouge. Est-ce que c'est la même personne? La métamorphose que Jésus nous procure, elle ne s'arrête pas à la conversion. La conversion fait de vous une chenille. Mais maintenant, il faut passer par toutes les étapes pour devenir ce papillon. Et ne plus être juste un consommateur dans l'église, mais être quelqu'un qui participe au ministère et qui porte du fruit, qui soutient les autres. Vous savez pourquoi les églises ne peuvent pas grandir au-delà d'un certain niveau? Parce qu'à un moment donné, la masse des personnes qui veulent rester des chenilles est trop grande pour la quantité de serviteurs qu'il y a dans l'église. Et donc, du coup, les nouvelles personnes qui viennent, elles ne trouvent pas l'assistance dont elles ont besoin, parce que figurez-vous qu'un pasteur ne peut pas tout faire. Et du coup, bien, ils quittent, et certaines personnes qui sont là ne trouvent plus l'aide dont elles ont besoin. Elles s'en vont ailleurs. Je connais une église au Mexique, une église de 3000 membres. C'est une des plus grosses églises que je connais là-bas. Tous les 5 ans, quasiment la totalité des gens sont partis dans des autres églises. Alors si ça se passe comme ça, vous devez vous dire, il y a quelque chose que l'on fait qui ne va pas ici. Toute l'église, les 3000, sauf quelques-uns qui sont fidèles, s'en vont dans les églises. Et cette église est une église qui sait évangéliser, c'est une église formidable dans l'évangélisation. Ils peuplent toutes les églises de la ville, qui eux ne savent pas évangéliser. Mais il y a quelque chose qui ne va pas, et je sais ce qui ne va pas. C'est que chez eux, c'est qu'on les maintient au niveau école du dimanche. On les maintient dans, voilà, être sauvé, la gestion des péchés, recevoir le pardon. Et c'est toujours des appels à la repentance, c'est toujours des histoires de culpabilité, c'est toujours des histoires du béaba de l'évangile. Et on ne les laisse pas mûrir, et alors ben, ils sont obligés de partir. Mais ce qui se passe dans certaines autres églises que j'ai vues aussi, c'est qu'il y a une nourriture solide qui est donnée pour mûrir les gens, et ça c'est le cas de cette église. Mais les chenilles ne veulent pas manger les nouveaux plats qu'on leur prépare, et elles restent dans ce qu'elles connaissaient avant, et puis elles grossissent, elles grossissent, elles grossissent, et puis la quantité de serviteurs, des papillons, qui se lèvent est tellement réduite qu'il n'y a pas assez de personnes pour s'occuper des nouveaux, et on atteint notre seuil de croissance maximale. On est saturé, on ne peut plus grandir à cause de ça. Mais dans une église en bonne santé, avec le temps, certains plus vite que d'autres, tout le monde devrait devenir un serviteur. C'est pas une question de « est-ce que j'ai un appel ?» Tout le monde a un appel. C'est pas une question de « est-ce que j'ai un ministère ?» Tout le monde est appelé à servir. Ministère veut dire service. C'est diaconie, diaconia. Ça veut dire servir. Tout le monde est appelé à servir. Alors, il y a certains qui vont très vite. Et il y a certains qui prennent un peu plus de temps. On respecte chacun des enfants spirituels que Dieu nous donne. On respecte son tempo. Mais c'est pas normal de rester une chenille 25 ans. À un moment donné, il faut que quelque chose change. À un moment donné, il faut qu'on accepte de passer le cap. Et dans cette église, mes amis, on est dans un seuil comme ça très important où le Seigneur va accélérer la maturation et la croissance chez plusieurs personnes. Et il faut pas que tu résistes. Il faut que tu te laisses faire par le Seigneur pour commencer à devenir un serviteur qui est capable de soutenir les faibles, d'aider les autres, de participer au ministère de l'Église. Il est écrit dans Éphésiens au chapitre 4 que Dieu, il a donné les uns comme apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs. Où est-ce qu'ils sont? Bonne question. Nos églises sont seulement souvent dirigées par des pasteurs. Et les autres ministères, on les voit presque jamais. Enseignants, on en voit quelques évangélistes. Des missionnaires, des apôtres, il n'y en a pas vraiment beaucoup. Hein. Ministère prophétique, très peu. Parce que on reste des bébés. Et Éphésiens chapitre 4 nous dit que Dieu, il a donné ces ministères-là, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs, pour équiper les saints en vue de l'œuvre du ministère. Et j'aime beaucoup ça. Parce que pour moi, ça me dit que les ministères, les cinq ministères, comme on dit dans Éphésiens 4, encore qu'il y en a peut-être que quatre dans cette liste, mais ces ministères-là ne sont pas là pour faire le ministère, ils sont là pour vous faire le ministère. Ils sont là pour vous équiper en vue du ministère. Ils sont là pour vous perfectionner, pour que vous entriez dans le service. Et moi, je suis content parce que ça fait 2 ans que je ne suis pas venu ici, et je vois des nouvelles personnes qui servent, je vois des nouvelles personnes qui chantent, je vois des gens qui sont fidèles à leur poste, mais je vois des nouvelles personnes qui se lèvent pour servir. Ça, c'est un signe de maturité. Ça signifie que vous avez accepté de laisser derrière l'enfance, et que vous avez accepté de passer dans l'adolescence, et de passer dans l'âge adulte. Et vous avez commencé à porter du fruit. Ça ne s'arrête pas là, ça continue, ça continue, ça continue. Vous savez, quand on devient serviteur à un moment donné, on devient capable d'équiper, de former les futurs serviteurs. Les pasteurs, quand ils ont fini leur carrière, ils ne doivent pas arrêter d'être pasteurs. Ils doivent devenir des pasteurs de pasteurs. Et enseigner aux jeunes pasteurs les 40, les 50 ans d'expérience qu'ils ont eus. On n'arrête jamais de travailler en vue de l'expansion du règne de Dieu. On n'est pas des consommateurs du religieux. On est une famille qui grandit. Moi, mon fils, il a 15 ans. S'il vient à moi pour que je le lange et que je le talque, il va avoir une baffe à la place. Ça n'a plus de sens. C'est ridicule. Je tolère ça d'un petit enfant de 1 an. Mais à un moment donné, il faut changer notre manière de faire. On a besoin de mûrir, on a besoin de changer. nous tenons dans nos têtes et dans nos émotions à des pensées et à des attitudes qui nous bloquent dans le passé. Et nous maintenons ça, mordicus, et nous n'acceptons pas de changer. Nous restons, je le sens parmi nous, des gens fâchés, des gens agressifs, des gens blessés, des gens rancuniers, des gens qui demeurent sur le passé, qui ne veulent pas tourner la page. Le Seigneur, il ne vous juge pas, il ne vous condamne pas. Il vous dit, lâche ça pour pouvoir grandir. Tu veux rester une chenille, moi je veux faire de toi un papillon. Je veux faire de toi un homme fait. L'apôtre Paul, il dit dans cette même épître que pour lui, vivre c'est Christ et la mort est un gain. Il ne parle pas que de la mort physique, vous savez. C'est un principe dans la vie. Regardez la nature. La nature, elle est tout le temps marquée par le cycle de la vie et de la mort. Mort-renaissance, mort-renaissance. Même les semences doivent mourir, pourrir en terre si elles veulent porter du fruit. Le grain de blé qui tombe en terre et qui ne meurt reste seul. Mais s'il meurt, il se multiplie, il porte du fruit. On doit accepter ce cycle-là, qu'à un moment donné, il faut lâcher les choses d'hier. Il faut mourir à ce que j'ai été. Il faut mourir à ma manière de penser. Il faut mourir à ma manière de ressentir, à ce que j'estime être ma personnalité, et on ne me changera pas.